L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambot et on est ensemble pendant 20 minutes. Cette semaine, nous allons vous présenter un projet original d'éducation aux médias, Globe Reporters. Globe Reporters, c'est une correspondance numérique entre des élèves et des journalistes envoyés en reportage à travers le monde. Pour en discuter avec nous, Raphaël Kraft, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante de retour de Guinée-Conakry, où vous avez passé 6 semaines en reportage pour Globe Reporters. Fabienne Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de français au collège Paul Verlaine, dans le 12e arrondissement de Paris, et vous participez depuis plusieurs années à Globe Reporters. Et enfin, Alain de Valpeau, journaliste indépendant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi documentariste et cofondateur du projet Globe Reporters. Vous avez travaillé pour de nombreux médias et notamment été correspondant de RFI.
RFI.
Est-ce que vous avez un mot, un message à adresser au Globe Reporters du collège Seligman à Paris?
Je vous salue, je vous félicite, je vous encourage et je souhaite que certains d'entre vous viennent dans notre région pour parler avec nos enfants, collaborer, échanger.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alain de Valpeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de Globe Reporters? Pourquoi avoir lancé ce projet?
Globe Reporters, ça part de l'idée d'un grand reporter qui veut raconter comment se fabrique l'information, aller au-delà des clichés et aussi partager le plaisir qu'il éprouve lors de ses reportages. Faire vivre cela, on a imaginé avec un professeur d'histoire géo, Éric Bureau, on a imaginé une correspondance, on a imaginé que des classes deviennent des rédactions et on s'est inspiré du modèle des rédactions, c'est-à-dire que voilà, les élèves deviennent des rédacteurs en chef et comme toute rédaction qui se respecte, ils ont des envoyés spéciaux et les envoyés spéciaux, ce sont des journalistes professionnels qui partent sur des terrains de reportage mandatés par ces jeunes rédacteurs en chef.
Alors le projet a été lancé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, je crois.
En 2007.
Et des milliers d'élèves sont passés par ce projet.
Oui, chaque année, alors le projet prend un peu plus d'ampleur. La première année, c'était une classe. Non, ça devait être 5 ou 6 classes. L'année dernière, on était à une quarantaine de classes. Donc aujourd'hui, on est sur une vitesse de croisière d'environ 1200 élèves par an.
Des élèves qui vont du CP à la terminale.
De 6 à 18 ans et de toute la France.
Chaque année, vous choisissez des zones de reportage. Quelles ont été les zones choisies au cours de ces derniers mois ou de cette dernière année? Pourquoi avoir choisi ces zones en particulier?
Pourquoi la Guinée-Conakry, Raphaël?
C'est une longue histoire, je vais la résumer. L'année dernière, j'étais en reportage dans le col de l'Échelle, à la frontière franco-italienne, entre Bardonecchia et Briançon. Et juste sous le col de l'Échelle, il y a un petit village qui s'appelle Névache, par lequel passent énormément de migrants, exilés ou réfugiés, avec une majorité de Guinéens. Et j'ai constaté que l'institutrice de la classe unique du village de Névache, donc du CP jusqu'au CM2, avait beaucoup de difficultés à verbaliser, à parler de la problématique des migrants. Et je me suis, du fait notamment des divisions politiques dans le village, et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, connaissant Alain, connaissant son association, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, t'as prévu quelque chose cette année, est-ce que la Guinée, ça rentre dans tes cordes? Et il m'a dit, banco.
Et donc, Alain, ça se passe un petit peu comme ça aussi, des journalistes qui viennent vous voir en vous proposant d'aller dans un pays pour Globe Reporters?
Ça dépend, par exemple, on a en parallèle de ce projet cette année, on a un projet aussi autour de la Roumanie, une campagne, hein, comme nous les appelons, et ça rentre dans le cadre de la saison France-Roumanie. Mais c'est effectivement avant tout un projet des journalistes qui ont envie de partir sur un terrain pendant plus de 6 semaines de reportage, aller au-delà des clichés et puis faire plein de reportages qu'ils ne feraient jamais parce que nos rédacteurs en chef, nos rédactions sont très curieuses et s'intéressent à tout.
Alors justement, Raphaël Kraft, vous rentrez de 6 semaines en Guinée, pays parfois surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Vous étiez l'envoyé spécial de 520 Globe Reporters. Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouviez avec des enfants en lieu et place de rédacteur en chef?
C'est la deuxième fois. Il se trouve qu'au mois de mai, j'ai fait un tour de Haute-Marne à vélo, mais seulement pour deux classes, où j'étais leur envoyé spécial en Haute-Marne. Alors, c'était pas vraiment le même système, parce que j'avais une plus grande liberté de manœuvre. J'étais un peu plus rédacteur en chef. C'était des thématiques que les élèves me demandaient d'explorer, alors que là, c'est véritablement des sujets avec des angles. Et quand telle classe me demande de rencontrer tel docteur ou d'aller dans tel parc national, eh bien, j'obtempère. Alors, j'obtempère parfois quand on me demande d'aller dans 5 parcs nationaux différents en Guinée, distants de plusieurs jours de route. J'essaie aussi d'organiser mon temps en fonction des conditions de travail. Mais effectivement, oui, c'est la première fois que je travaille comme ça pour des élèves. Et pour rebondir à la question que vous posiez à Alain de Valpeau à l'instant, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que les élèves vous envoient dans des endroits où vous n'auriez pas imaginé aller si vous étiez parti en reportage seul pour une ou plusieurs rédactions.
Fabienne Robert, vous êtes professeur au collège Paul Verlaine à Paris 12e. Ce n'est pas la première année que vous participez avec vos élèves à Globe Reporter, c'est la troisième si je ne m'abuse.
C'est la troisième année, oui, en effet. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai une des classes de quatrième, et en quatrième, la presse et l'éducation aux médias est une partie du programme très importante. Et je réfléchissais à la manière la plus concrète d'aborder cette question du programme, et avec ma collègue documentaliste, Madame Foulon, nous avons pris connaissance de l'association Globe Reporter, enfin de projet Globe Reporter, et on s'est dit que c'était une façon très concrète d'aborder la presse, non pas seulement avec des revues de presse ou juste regarder ce qui se faisait, mais vraiment rendre les élèves actifs et acteurs de ce projet de presse, c'est-à-dire comment partir d'un fait brut pour aller jusqu'à sa concrétisation et son traitement journalistique.
Et depuis 3 ans, vous avez choisi des campagnes en Afrique de l'Ouest exclusivement. Pourquoi ce choix ?
Alors pourquoi ce choix ? D'une part, par choix personnel, parce que je connais un petit peu l'Afrique de l'Ouest, et puis aussi par rapport à la population du collège. Le collège Paul Verlaine est situé dans le 12e arrondissement, qui est un arrondissement de Paris qui reste très hétérogène. Et certains de nos élèves sont d'origine africaine, d'autres pas du tout. Et ce brassage, ce mélange est intéressant, à la fois pour casser des orientations parmi nos élèves qui ne sont pas du tout d'origine africaine, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, parmi nos élèves qui sont d'origine africaine. Parce que souvent, ce sont des pays fantasmés qui ne connaissent pas les pays de leurs parents. Et je trouve ça intéressant.
Avant de poursuivre notre discussion sur Globe Reporters et de prendre la direction de la Guinée-Conakry, donc, je vous propose de faire un petit tour de ce qui a retenu l'attention de l'équipe de l'Atelier des médias cette semaine.
atelier@rfi.fr.
Les seniors partagent plus facilement des infox sur Facebook que les jeunes. C'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs aux États-Unis et publiée mercredi. Les utilisateurs âgés de 65 ans et plus partagent 7 fois plus d'articles provenant de sources douteuses que le groupe d'âge le plus jeune. Pourquoi ? Eh bien, selon les chercheurs, ce serait notamment une question d'éducation aux médias. Les consommateurs d'actualité âgés, habitués aux grands médias et aux supports traditionnels comme le papier, peineraient à identifier les sources fiables sur Internet. Et puis on vous invite à vous abonner à une nouvelle newsletter. Elle s'appelle Technologia, elle est consacrée à l'Afrique connectée. Elle arrive chaque dimanche dans votre boîte mail et son contenu est rédigé avec soin par Marc Etcheverry et Kevin Poirot. Elle traite pêle-mêle de questions de censure et d'activisme sur Internet, de la tech et de ses effets sur nos sociétés. On vous partage au moment où je vous parle le lien pour vous abonner à Technologia sur le compte Twitter de l'Atelier des médias @atelier_media.
http://atelier.rfi.fr.
Il y a une audience sur Internet aujourd'hui.
On peut imaginer beaucoup de choses, et notamment une taxe sur les clics sur Internet.
Nous sommes en train de vivre un changement de modèle économique.
Et Internet est le réseau qui bouscule, parce qu'en permanence, on parle de tout.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
L'Atelier des médias.
Nous sommes de retour avec Alain de Valpeau, Raphaël Kraft et Fabienne Robert pour discuter du projet d'éducation aux médias Globe Reporters. Raphaël, quelle était votre feuille de route lorsque vous êtes parti en Guinée pour Globe Reporters en novembre et décembre 2018 ?
Bah, avant de partir, déjà, je suis allé dans pas chacune des 19 classes dont j'étais l'envoyé spécial en Guinée, parce que certaines de ces classes se situent notamment à l'île de la Réunion, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je suis allé voir la majorité de ces classes pour d'abord leur raconter ce qu'était mon métier, leur raconter pourquoi j'ai un jour décidé de faire du journalisme, comment je travaillais, etc. Et puis commencer à élaborer un programme, voilà, qu'est-ce qu'il y a en Guinée, qu'est-ce qui peut être intéressant en Guinée. Ça, j'y suis allé bien en amont, donc au début, à la rentrée scolaire, afin que les élèves puissent commencer à préparer les questions, parce que je suis, quand on dit que ce sont des rédacteurs en chef, c'est même plus que des rédacteurs en chef, puisqu'ils me demandent le sujet à traiter, ils m'indiquent la personne parfois à rencontrer, et telle personne, il me prépare les questions que je dois lui poser. Ça veut dire que j'ai 19 classes qui ont chacune la possibilité de me commander 5 reportages. Donc je pars avec près d'une centaine d'interviews à faire. Parce que,
c'est énorme.
Oui, c'est considérable. Et ça fait peur quand on part. Heureusement, à chaque fois que j'ai Alain au téléphone, il me dit « Tranquille, on est là pour se faire plaisir. » Alors oui, on est là pour se faire plaisir. Et donc j'arrive en Guinée dans ces conditions, avec cette feuille de route.
C'est la première fois que vous alliez en Guinée, qu'on a créé.
Oui, c'était la première fois. Alors je connais un petit peu l'Afrique, la RDC, le Mali, le Sénégal, le Niger, mais je ne fais pas partie des grands connaisseurs de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai découvert la Guinée avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Mais j'arrive dans un pays où les conditions de travail sont quand même assez compliquées. Beaucoup de coupures d'électricité, des conditions de connexion qui ne sont pas toujours optimales. Il fait chaud, il fait humide, il n'y a pas toujours l'eau courante. Et quand on part effectivement en dehors de Conakry, là, ça devient encore plus compliqué.
Et vous arrivez avec un regard neuf, justement, et vous avez bien potassé les sujets en amont. Et les élèves ont autant potassé le sujet que vous, parfois ?
Alors, lorsque j'ai rencontré les élèves, j'ai beaucoup insisté sur la préparation, la documentation, l'importance de la documentation lorsque on partait en reportage. C'est d'ailleurs la chose la plus importante, je crois, quand on part en reportage. Donc effectivement, j'ai appelé les élèves à se documenter, je me suis moi-même documenté, j'ai préparé quelques contacts en amont, mais c'est finalement sur place, par un jeu de ping-pong, comme ça fonctionne souvent lorsqu'on est reporter et qu'on débarque dans un pays, que se font les rencontres.
Alain de Valpeau, comment vous positionnez-vous avec les journalistes envoyés en reportage ? Comme un chef de projet, comme un rédacteur en chef aussi peut-être ?
Non, moi je suis le coordinateur du projet, hein, donc je suis le porteur aussi du projet. C'est moi qui notamment trouve les financements. On a des financements, on a des subventions publiques, le ministère de la Culture nous appuie, et puis après on a des subventions privées, la Fondation de France, la Fondation SNCF. Enfin, à chaque fois ce sont des dossiers assez conséquents à remplir, donc il y a ce travail administratif. Après, il y a la gestion des classes, des enseignants qui contactent. Alors, il y a, comme Fabienne, il y en a qui connaissent bien le projet, mais il y en a d'autres qui le découvrent. Et puis après, il y a aussi tout le travail de coordination des journalistes, parce qu'il faut bien comprendre que sur une campagne Globe Reporter comme celle en Guinée, il y a l'envoyé spécial, mais ce n'est pas le seul journaliste qui est impliqué. Il y a un journaliste, et donc là, en l'occurrence, c'était moi, qui est le secrétaire de rédaction, parce que toute cette matière première que Raphaël va récolter sur le terrain, des sons, des photos, des textes, des vidéos, tout ça, il faut le mettre en ligne et ça prend du temps. Et c'est une fois que les choses sont mises en ligne que les rédactions peuvent s'emparer de cette matière première brute. Il faut bien comprendre que l'envoyé spécial, c'est pas lui qui va écrire les articles. Il va mettre à disposition des rédactions, des jeunes, une matière première journalistique multimédia brute. Et ces rédactions vont ensuite s'emparer de cette matière première pour réaliser leur propre production. Et puis aussi, troisième type d'implication pour les journalistes, il y a les journalistes parrains ou marraines qui aident chaque classe. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de journalistes qui acceptent d'accompagner les classes et justement les aident dans le choix des sujets, le choix des angles et aussi le choix des questionnaires.
Fabienne Robert, justement, vous êtes professeure de français. Oui. Comment est-ce que vous associez vos élèves dans ce processus justement de création journalistique et comment est-ce que vous incluez tout cela dans votre processus pédagogique ?
Alors c'est plus qu'inclure, hein, parce que c'est eux qui font. Ma séquence sur la presse commence par une présentation générale de ce qu'est la presse, mais très vite, je leur demande de faire œuvre de journaliste, c'est-à-dire, comme disait Raphaël Kraft, faire des recherches déjà sur la Guinée, où se trouve ce pays, des informations générales. Et puis ensuite, à eux de choisir des sujets qui les intéressent en se mettant en groupe, donc un travail en groupe, et puis par la suite, rédiger donc des interviews ciblées ou non, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas exactement à qui s'adresser, parfois ils trouvent effectivement des personnes à qui s'adresser. Ensuite, ils écoutent donc les interviews, ils les transcrivent ou ils font un article à partir de ce qu'ils ont entendu. Mais je tiens quand même à une transcription, c'est-à-dire pour qu'ils soient très, très attentifs à ce qui est dit. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément un français dont ils ont l'habitude. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir d'autres accents, d'autres expressions. Et à partir de là, effectivement, ils vont rédiger leurs articles en groupe.
Cette semaine, on célébrait un triste anniversaire, celui des attentats de janvier 2015, au cours desquels la rédaction de Charlie Hebdo à Paris avait été décimée. Et dans la loi de refondation de l'école de juillet 2013, il était déjà question d'éducation aux médias, notamment au collège. Et Najat Devolo-Belkacem, il y a 4 ans, parlait et souhaitait améliorer l'éducation aux médias, à l'information, qui, disait-elle, est un enjeu démocratique essentiel. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle là-dedans, vous, en tant que professeur de français en
collège ?
Alors
oui, j'ai l'impression de jouer un rôle par ce travail véritablement concret et pragmatique, davantage que juste, encore une fois, comme je disais, par l'observation de revues de presse ou autres. On a travaillé sur la caricature, on a travaillé sur le dessin de presse. Ça aurait pu être une entrée aussi, hein, finalement, le journalisme en Guinée. Ça n'avait pas été forcément retenu par mes élèves. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, être actif pour les élèves, voire faire du dessin de presse, hein, pourquoi pas, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils s'interrogent sur la question du métier de journaliste. Parce que pour eux, finalement, un commentaire vaut un travail de journaliste avant même qu'on ait commencé. Donc là, ils voient toutes les étapes.
Alain de Valpeau, une réaction ?
Oui, bah alors, Globe Reporter, c'est effectivement un projet d'éducation aux médias, mais pas que. C'est aussi, on l'a bien compris, une ouverture culturelle sur la francophonie. C'est aussi un projet d'éducation à la citoyenneté, parce que tous ces jeunes aujourd'hui sont d'une part inondés par des flots d'informations dont la provenance est pas toujours, de plus en plus floue. Donc il faut bien qu'ils comprennent comment se fabrique l'information. Globe Reporter ne leur propose pas de devenir journaliste, mais de mieux décrypter la manière dont se fabrique l'information. Et puis ces jeunes, aujourd'hui, sont tous, maintenant, quand on like, quand on partage, finalement, pourvoyeurs d'informations. Donc, certes, la liberté d'expression, c'est un droit, mais aujourd'hui, on a aussi un devoir, quand on a cette liberté d'expression, de ne pas dire n'importe quoi. Et Globe Reporter, justement, c'est aussi ça. C'est se dire, avant de dire quelque chose, il faut que j'ai une source, il faut que j'ai vérifié mon information, etc. Et donc là, on est dans un projet aussi d'éducation à la citoyenneté, parce que derrière, il y a des enjeux démocratiques.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus dans l'atelier des médias. On ne manquera pas de reparler de Globe Reporters dans une prochaine émission. D'ici là, rendez-vous sur globe-reporters.org. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Direction la Côte d'Ivoire, où la mondoblogueuse Mariette Yao réagissait en janvier 2015 à l'attaque terroriste contre le journal Charlie Hebdo.
Chez moi, Charlie n'a jamais vécu. La violence de l'attaque qui a coûté la vie à 8 journalistes de Charlie Hebdo et à 2 policiers laisse le monde dans un grand effroi. Exécuté de sang-froid par des terroristes, quelle horreur! On partage le désarroi de la France qui a prôné l'égalité, la fraternité et la liberté d'expression. Partout dans le monde, nous nous sentons tous Charlie, spécialement nous blogueurs, journalistes, caricaturistes. Je pense aussi à mon pays, la Côte d'Ivoire, où Charlie n'a jamais vécu. Je pense plus particulièrement à la presse écrite ivoirienne qui diffusera l'information vivement colorée par le parti que le journal soutient. Pour éviter de se faire intoxiquer, il faudrait acheter au moins 4 journaux différents et faire soi-même une synthèse. Car chez moi, Charlie ne vit pas. Les rares caricatures qu'on peut voir dans les dernières pages de certains journaux sont de bien gentils dessins. On ne va jamais trop loin. On n'attaque pas vraiment. On peut rire sans trop prendre position. Car on ne sait pas où l'on pourrait finir. On pourrait nous obliger à rendre notre démission. On pourrait sanctionner notre journal. On pourrait nous enlever et nous bastonner. On pourrait nous mettre en prison. On pourrait nous tuer. Tomber sur la satire décalée de Charlie Hebdo nous faisait rêver et nous faisait garder espoir d'une liberté de la presse chez nous. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas critiquer ouvertement les politiques ou le parti au pouvoir. On espère voir un jour la naissance d'un Charlie.
En tout cas, à défaut d'avoir un Charlie, la Côte d'Ivoire a son éléphant déchaîné. Vous pouvez retrouver l'intégralité du billet de Mariette Yao sur son blog Les Contes de l'étrangère et sur mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse. Au micro, Steven Jambot. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Nous irons en Côte d'Ivoire où a été lancée une plateforme de MOOC. Alors, Internet peut-il être un remède aux multiples problèmes que rencontre l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? C'est l'une des questions que l'on se posera. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.